This is Free City Radio on CKUT 90.3 FM in Montreal. It is Wednesday, the 7th of July, and this is our weekly broadcast every Wednesday at 11 a.m. Thanks for being with us. I'm your host, Stefan Christoph. On the broadcast today, I want to feature sound from a community press conference that took place yesterday here in the city. It was concerning Mahamadou Konaté, who is an asylum seeker from Côte d'Ivoire, has worked as a janitor within the CHSLD system throughout the pandemic, and is now facing deportation from Canada. There's been a campaign to support Mahamadou here in the city, and yesterday there was a community gathering to support his case and to draw attention to a pending deportation. At the community gathering, there was a number of speakers who we'll hear from, including Alexandra Boularis, who's the deputy leader of the NDP, Gaurav Sharma from the Immigrant Workers Center, Marisa Berry Mendez from Amnesty International, Andreas Fontesia from Quebec Solidaire, and Kazem Termizi, who's a part-time faculty at Concordia, and Stuart Isvansvi, who is the immigration and human rights lawyer working on Mahamadou's case. Of course, we hear from Mahamadou directly. I hosted this press conference yesterday, and I wanted to share the audio. It was recorded just below the autoroute where Justin Trudeau's office is, his riding office off of Cremazie. And I want to thank very much Marcus Floats, who recorded this audio and prepared it, edited the sounds, which I'm featuring today on Free City Radio. So here's the press conference yesterday concerning the case of Mahamadou Konaté.
I would like to acknowledge that we are on the unceded traditional territory of the Gnat Gehaga. The Gnat Gehaga are the keepers of the eastern door of the Haudenosaunee Confederacy. The island called Montreal is known as Jojage in the language of the Gnat Gehaga, and it has historically been a meeting place for other Indigenous nations, including the Algonquin peoples. I believe it's not enough just to acknowledge the keepers of this land, so I would encourage everyone participating in this community press conference to get informed and educated and actively resist colonialism in the many forms it takes, and to acknowledge the diversity of forms that resistance can take too. This ongoing history of colonialism in what is now called Canada is linked to a racist immigration system. Since the Confederation of Canada, immigration policies have worked to disproportionately favor white European settlements in Canada. As someone born in Jojage, Montreal, from parents who migrated from South Asia, I'm reminded of how in 1914, the ship Kamagatamaru with Indian immigrants attempted to dock in the port of Vancouver and were denied entry so as to maintain Canada as a white man's country. And a reminder of how this moment is a reminder of how status and rights in Canada is something which is racialized. Kamagatamaru was not an aberration and a part of history, but it gets replayed over and over again. When people of color are allowed by the state to migrate, it is often in the form of low-wage, labor-intensive workers. You know, this can be seen in the 1960s with seasonal agricultural workers program, which continues. It's important to remember that Canada is made from the dispossession of Indigenous territory, and it operates day-to-day on the labor of racialized migrant workers. And while racialized peoples, many times those with precarious migratory status, are the ones who are, in Legault's terms, guardian angels during this pandemic. And remembering that 12,000 people during the pandemic, more than 12,000 people have been deported. And they are similarly these guardian angels are often disposable for the Canadian and Quebec governments, but our society does not have to be this way. Status for Mahamadou Konaté now, status for all.
Merci, Kazem. Et encore désolé pour l'autoroute, mais c'est comme ça. Merci encore pour votre présence aujourd'hui. Les prochaines personnes qui parlent, c'est Gaurav Sharma. C'est un organisateur à l'Aison Travail Immigrant. The next person who's going to speak is Gaurav Sharma, who's an organizer at the Immigrant Worker Center and is an essential worker.
Thank you, everyone. I'm here on the behalf of Immigrant Worker Center, and I hope so my brother's voice will be listened by the Government of Canada, because we all are same. So I'm here right to speak. It is very hard to us. It is not very hard to me, or it is very hard to everyone who are facing deportations, who are came from another country, spending 7-8 years over here and giving lot of things to this country by hard work, by anything, paying tax, everything, obeying all the rules and regulations, and doing equal work. After that he came to know deportation, which is very, 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 very difficult to those person who's spending 7-8 years over this country and giving all the things. The future is uncertain after deportations. So my humble request before the government is there should be make a flexible rule and regulation. They should have a one eye, because they should see everyone equally, because we all are essential. Either we are doing a labor, either we are doing a class job, we all are equal. So we all are doing same effort who having a status. So my humble request to Mr. President, Prime Minister, that they should have a flexible rule and regulation. They don't deport to us. They should give us same status, because we all are doing same thing. We all are paying same thing. We all are equally working. So this is my request before all the authorities. So I'm with him. So thank you very much being here. Thank you.
Thank you, Gaurav Sharma, who's an organizer at the Immigrant Worker Center here in Montreal and is an essential worker. The next speaker is Marisa Berry Mendez, who is a representative from Amnesty International. La prochaine personne qui parle, c'est Marisa Berry Mendez de Amnesty International.
Merci, Stéphane. Bonjour, tout le monde. Je vais essayer de crier fort. Je m'appelle Marisa Berry Mendez. Je suis ici en tant que porte-parole d'Amnesty International Canada francophone afin de manifester notre soutien à Mamadou Konaté et à toutes les personnes migrantes sans statut et à statut précaire ici présentes au Québec et au Canada. Pendant la pandémie, nous avons compté sur Mamadou aux premières lignes du système de santé, tout comme nous comptons au quotidien sur les personnes migrantes pour le bon roulement de nos services, de notre économie et pour le fonctionnement de notre société. Ces personnes comblent les postes les plus essentiels, assurant la production, la transformation et la vente des aliments, prenant soin de nos gens malades ainsi que de nos enfants et de nos personnes âgées, travaillant dans le nettoyage et dans les entrepôts et bien plus encore. Elles sont également nos voisins et nos voisines, des membres de nos communautés. Ce sont des travailleurs et travailleuses étrangers temporaires, des demandeurs d'asile déboutés ou jugés inadmissibles selon des critères trop restrictifs, comme dans le cas de M. Konaté, et d'autres personnes qui, ne réussissant pas à entrer dans les catégories extrêmement étroites pour la résidence permanente, se retrouvent sans statut légal ici. Les droits humains des personnes migrantes sans statut et à statut précaire sont constamment bafoués. Leur droit au travail, leur droit à la santé et parfois, on l'a vu à plusieurs reprises pendant la pandémie, leur droit à la vie. C'est le statut migratoire précaire des gens comme Amadou qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas exercer et jouir de l'ensemble de leurs droits humains. C'est le manque d'un statut permanent qui les rend vulnérables au non-respect de leurs droits. Ainsi, la régularisation des statuts est la meilleure façon pour le Québec et le Canada de protéger les droits humains des personnes migrantes et de respecter leurs obligations juridiques internationales en matière de droits humains en même temps. J'aimerais souligner le problème profond et systémique avec notre système d'immigration, qui construit en fait la précarité des personnes migrantes sans statut et à statut précaire. À travers les dernières 20 ans, c'est devenu un système à deux vitesses. D'une part, nous invitons certaines personnes à intégrer la société québécoise et canadienne en tant que résidents permanents, avec tous les services et les droits qui leur sont dus. Mais d'autre part, nous comptons sur la présence de centaines de milliers de personnes migrantes, des personnes qui n'ont pas la possibilité d'immigrer de façon permanente, car elles sont exclues du système. Encore une fois, ce sont des personnes dont notre économie et notre société dépendent. Beaucoup de ces personnes sont à risque d'être envoyées ou d'être détenues ici, dans des centres de prévention d'immigration ou bien dans des prisons provinciales, sans aucune limite à la durée de la détention. Les conditions de la détention migratoire au Canada violent habituellement les droits humains des personnes détenues. Amnesty International et Human Rights Watch l'ont bien documenté dans un rapport publié récemment. Aujourd'hui, nos gouvernements ont une occasion unique, dans ce contexte de pandémie, de changer leur approche, de choisir l'inclusion plutôt que l'exclusion et de mettre en place un système d'immigration qui respecte les droits humains des personnes migrantes. Amnesty International Canada francophone soutient la défense des droits humains des personnes migrantes comme M. Konaté par le biais d'un programme de régularisation large et inclusif, et nous appelons les gouvernements québécois et canadiens à assurer la mise en place d'un tel programme dès maintenant. Merci beaucoup.
Merci, Marisa Berry-Mendez, Amnesty International. Et moi, juste mentionner pour les représentatives et journalistes aujourd'hui, c'est possible pour faire des interviews brèves après les interventions de presse. Les prochaines personnes qui parlent, c'est Alexandre Boularis, c'est les représentatifs de les NPD et les deputy leader of the NDP. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui.
Merci Stéphane, merci à la coalition, merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui. Je ne vais pas parler longtemps, je vais être bref, mais si on déporte quelqu'un comme Mamadou Konaté, on fait dur. Comme pays, on fait dur. Comme société, on fait dur. Et on devrait avoir honte. Les libéraux de Justin Trudeau devraient avoir honte de déporter quelqu'un comme ça, qui a travaillé, qui s'est sacrifié, qui a aidé nos aînés, nos personnes âgées, qui veut continuer à travailler dans notre société, puis qu'on fout dehors à cause de règles complètement absurdes. Et j'ai jamais vu un ministre de l'immigration comme Marco Mendicino aussi inutile et inefficace de ma vie. On lui a écrit au mois de décembre. Il nous a même pas répondu. On lui a eu accusé de réception. Qu'est-ce qu'ils foutent, les libéraux de Justin Trudeau? Elle est où, leur accueil, leur ouverture, leur tolérance, puis le fait qu'on veut être un pays, puis une société, puis une terre d'accueil, si on est incapable de garder quelqu'un comme Mamadou
à soutenir à toutes ces personnes à statut migratoire précaire qui ont tant contribué à la société québécoise. Mamadou a risqué sa vie pour soigner des personnes âgées du Québec. Nos grands-parents, vos grands-parents ont été soignés par Mamadou et par des milliers d'autres. Et puis à un moment donné, on n'en a plus besoin de vous. Voilà, vous perdez votre travail. Et dans les cas de Mamadou et dans d'autres, c'est la menace de renvoi, c'est la menace de renvoi vers les incertitudes, vers des pays où il y a la COVID encore, vers des pays où il y a des violations des droits de la personne. C'est ce qui attend des gens comme Mamadou qui ont tant donné pour le Québec. Alexandre Boularis a parlé de Justin Trudeau. Moi, je vais parler du gouvernement du Québec, du gouvernement du premier ministre François Legault, qui a eu l'opportunité de mettre en place un programme de régularisation généreux, qui reconnaît l'apport de ces personnes à la société québécoise. Mais il a refusé. Il a refusé pour des raisons politiques, électoralistes. François Legault et toute sa clique ne sont pas des amis des réfugiés, ne sont pas des amis des gens issus de l'immigration. Pour eux, il faut être dur avec ces gens-là. Il faut leur appliquer toute la rigueur de la loi. Et s'il faut les renvoyer, parce que la loi dit ça sans aucun égard aux raisons humanitaires, à la contribution que ces personnes-là ont faite, et voilà, ils vont y aller parce qu'ils risquent de gagner des votes avec ça. C'est injuste. C'est malsain comme façon de faire de la politique. La seule façon de continuer, c'est de susciter encore plus de solidarité envers Mamadou et envers toutes les personnes comme lui qui risquent la déportation ou qui vivent de façon éternelle presque l'insécurité d'un statut d'immigration précaire. Donc continuons la mobilisation, continuons la solidarité avec Mamadou et on ne va pas te lâcher. Merci beaucoup.
Merci, Andrés. Gracias, Andrés Fantasia de Québec solidaire. Maintenant, les avocats de Mamadou Konté expliquent les situations légales. Stuart Eisvansky.
OK. Ben, j'aimerais vous adresser sur un thème des droits humains et les droits qui sont impliqués dans ce dossier. Mamadou, il a travaillé pour aider nos vieux. Il a travaillé dans une situation de vie ou mort où il a risqué sa propre vie, puis il est tombé malade avec la COVID. Pour son, ce qu'il a fait ici au Québec, il a appris à bien lire et écrire, et il s'est bien intégré dans cette société. C'est un immigrant modèle, mais il est bloqué par une loi inique. Il y a vraiment un problème au niveau de notre loi et la question de l'inadmissibilité. Et le gouvernement libéral n'a pas réparé les problèmes de droits humains avec notre loi d'immigration. Il est inadmissible parce qu'il vient d'un pays où il y a une guerre civile, puis il avait pris les armes d'un côté de cette guerre civile. Selon la clause qui le rend inadmissible, Nelson Mandela serait inadmissible au Canada. Il y a vraiment des problèmes très importants avec l'inadmissibilité pour sécurité et pour criminalité ici au Canada. Les libéraux n'ont rien fait pour changer nos lois, pour refléter nos valeurs. Il y a encore des déportations qui sont complètement injustes et qui ne respectent pas l'esprit de la Charte des droits et libertés et qui ne respectent pas les droits fondamentaux des gens comme Mamadou Konaté. Fait que nous vous demandons, en ce moment, le ministre de l'Immigration pourrait émettre demain un permis de séjour temporaire qui assure que Mamadou pourrait éventuellement avoir la résidence permanente au pays. Mais également, le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, est là sur son bureau depuis plus qu'un an, une demande pour lever l'inadmissibilité, que nous, pour nous, ce n'est pas du tout justifié. C'est vraiment un immigrant modèle qui mérite sa place dans la société. Et il faut laisser, il faut le faire savoir à M. Blair et au ministre de l'Immigration que c'est quelqu'un qui a sa place ici au Québec. Merci.
Merci à Stuart Eisvansky, qui est l'avocat de Mamadou. Les prochaines personnes qui parlaient aujourd'hui, cet matin, c'est Mamadou Konaté, qui luttait pas juste pour un statut individuel, mais aussi une personne qui participait dans beaucoup de mobilisations pour les statuts pour tous et toutes. Merci, Mamadou, pour votre courage et votre présence aujourd'hui.
Bonjour tout le monde. Si je prends le micro aujourd'hui, c'est que j'ai décidé de oser du tout pour ce que beaucoup de personnes migrantes pensent tout bas. Et pourquoi le gouvernement du Québec et du Canada ne suivent pas par leur promesse de donner la résidence permanente à tous ceux de ceux qui ont aidé le pays à rester à flot. Pourquoi le gouvernement du Québec et son premier ministre, François Legault, refuse toujours à respecter les spécialistes pour les demandeurs d'asile? Est-ce que c'est parce que nos vies ne valent pas assez pour que les Québécois et Québécoises nous remercient? Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas payé assez cher le prix de la COVID? Alors, même que c'est prouvé que les personnes migrantes sont sous-représentées parmi les victimes de la COVID, est-ce que c'est parce que le gouvernement Legault a pour de faire des pédagogies et d'expliquer aux Québécois et Québécoises que les migrants, la migration est une force et une chance pour le Québec de demain, et qu'ils refusent à faire campagne sur nos dos et continuent de faire de nous une menace pour notre province? Trop, c'est trop. Nous sommes bons pour travailler, mais jamais assez pour obtenir la dignité et le respect. Les deux points de mesure ne peuvent plus durer. Alors, même qu'on découvre que le meilleur de la santé, le milieu de la santé, de la alimentation et de l'industrie manque cruellement de travailleurs et de travailleuses, Monsieur Legault, Monsieur Trudeau doivent assurément et porter un débat national sur la migration et afin donner la parole à celles et ceux qui, comme moi, méritent à que leur donne la parole, car le Québec est à nous tous et le Canada. Donc je profite pour dire, la semaine passée, j'ai travaillé avec des amis pendant ces moments difficiles. Mais la semaine passée, je les ai vus, ils m'ont dit, ah Mamadou, nous on est dessus, on doit rentrer. On veut rentrer, je me dis, mais vous allez où? Ils sont des personnes, ils viennent du Brésil. Mais je me dis, mais présentement, au Brésil, il y a trop de nombre de cas de Covid. On est en train de voir si on peut aller en Espagne. Mais ces gens-là, quand ils vont arriver en Espagne, ils vont les demander, vous êtes où? Ils vont dire, on est au Canada. Ok, parlez-nous de Canada, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire de Canada? Ok, ces gens-là, on a fait les premières vagues de Covid ensemble. À ce moment-là, ceux qui ont fait les premières vagues de Covid, c'est les gens vraiment, ils ont vraiment sacrifié leur vie. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il n'y en avait aucun équipement. Il n'y en avait pas d'équipement. Et il y a des personnes qui venaient, dès qu'ils voient les champs qui sont là, on dit, ok, tout cela, ce sont les champs qui sont infectés par le virus, et refusent automatiquement de travailler. Même quand le premier ministre a fait appel au monde de venir aider dans les CHSLD, les mondes sont venus. Mais beaucoup, quand on vit le Covid, ils se sont retournés. La majorité, ce sont les migrants qui sont restés. Mais ces migrants, aujourd'hui, ils sont en train de se retourner. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement les refuse. Ensuite, c'est quoi qui fait mal dans cette affaire-là? Là, ils sont en train de recruter encore des gens dans notre pays pour les faire venir. Ceux qui sont ici, qui ont sacrifié leur vie, vous avez financé l'argent d'ailleurs. Certains sont là à l'école, apprendre à parler le français et écrire tout ça. Aujourd'hui, vous les mettez dans une vie clandestine. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Blanchiment d'humain ou bien c'est quoi? Donc, franchement, aujourd'hui, je passe ce message aux Québécois pour que le monde sache. Les migrants sont vraiment importants dans ces pays parce que tout le boulot dangereux, le boulot de riz, sont faits par les migrants. Parce que j'en ai déjà travaillé dans plusieurs domaines dangereux dans ces pays. Donc vraiment, que les Québécois sachent aujourd'hui, parler avec le gouvernement. Le monde québécois, j'ai eu la chance de coopérer avec le monde québécois. Et ça, c'est un pays qui a beaucoup de sentiments. Mais aujourd'hui, on souffre d'un bricolage de quelques têtes. Je suis parfaitement conscient de ça. Donc aujourd'hui, que le monde s'associe à nous pour essayer de sensibiliser ces gens-là pour qu'ils viennent à la raison. Il y a des femmes et des enfants aujourd'hui, à cause de politique, qui est en train de peser sur leur vie dans ces pays, qui ne peuvent même pas se soigner. C'était même pas là l'école, ce problème. Donc vraiment, c'est un message que je voulais partager à tout le monde, qu'ils savent, je ne suis pas le seul. Il y a des mondes aujourd'hui qui souffrent dans ce genre de problème. tu es dans un pays pendant 6 à 7 ans, tu travailles, on te donne un permis de travail, tu travailles, tu contribues. Maintenant, après, ils vont te déporter. Tout ce que tu as contribué, ça reste ici. La dernière fois, quand j'étais dans le centre de détention, je vous jure, il y a un monsieur qui était déporté, Simon Jouen Haïtien, qui a fait 39 ans ici. Imagine, on en est 39 ans dans la vie d'un être humain, il y a combien qui reste? Nos générations, nous vivons aujourd'hui de 60 ans à 70 ans. Il y en a qui passent, mais quand tu fais calcul normal, c'est 60 ans à 70 ans. Quelqu'un qui a fait 39 ans ici, on le déporte. L'autre avait fait 9 ans ici, un Mexicain qui était déposé. Toutes ces années-là, on lui donne un permis de travail. On le coupe pour garder, pour, comme on appelle, la retraite, tout ça reste ici. Quand ça va, on ne lui donne pas. Il y en a même qui arrivent au pays, ils n'ont aucune rébelle. Donc maintenant, on parle de démocratie. La démocratie, c'est en faveur de qui? À ceux qui organisent. Ce n'est pas une démocratie universelle. Donc vraiment, je dois au peuple québécois et les Canadiens de passer mes chers à ce gouvernement pour qu'ils puissent changer leur système migratoire. Je vous remercie tout le monde, tous ceux qui ont laissé leur travail pour venir ici. Je remercie tout le monde depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Merci pour tout votre soutien. Merci encore.
That was a press conference concerning the case of Mahamadou Konaté, an asylum seeker from West Africa, from Côte d'Ivoire, who's facing deportation from Canada. This is Free City Radio on CKUT 90.3 FM in Montreal. It is Wednesday, July 7th, and I'm your host, Stéphane Christophe. We broadcast every Wednesday at 11, so tune in next week and keep it locked to People Powered Radio at 90.3 FM in Montreal. Coming up next is the F-Files. And to finish the show today, I'm going to play a piece of music from Ondera, who is an artist from Minneapolis via Kenya. I want to thank my late friend Aziz Chaudhry for sharing this artist with me. So here we go.
You've got your tie, you've got your soak and your belts real tight. There is a new suit going around the world and it fits just right. Oh, when the suit fits, you are a socialist. Oh, when the suit fits, you are a feminist. Oh, when the suit fits, you are a scientist. Pyramid justice, only when the suit fits.
My name is Mindy Sue. I'm calling in from upstate New York. I'm a designer and researcher focusing on revisionist history, archival politics, and internet criticism. I'm also an assistant professor at Rutgers, and I teach an additional class in the MFA program at the Yale School of Art.
I am very interested by your project, the Cyberfeminism Index, and this was what kind of was the window into your work for me. So I wonder what your inspiration was for the Cyber Feminism Index project. Also, what's your kind of working definition of cyber feminism is for this project?
Yeah, I think when I was in grad school, I was very interested in the New Woman Survival Catalog. This is kind of like the feminist spinoff or a retaliation of the Whole Earth Catalog by Susan Rennie and Kirsten Grimstad. And at the same time, I was taking a class on the politics of citations. Called Experimental Infrastructures. And I was also doing a fellowship at the Berkman Klein Center for the Internet and Society, which is kind of like the internet policy wing of the Harvard Law School. So with all of these three things kind of mixing together, it ended up really thinking about how we can rethink the history of the internet. We often focus on the architectures who create the protocol and infrastructure and architecture, and spend less time focusing on the application layer of the stack. So while a lot of people in this index are highly technical, I also wanted to think about how their different media allowed them to create different forms of activism online or through digital technologies generally. As for a working definition of cyberfeminism, I think the best way to explain it is to unpack the term itself. So cyber first came about through Norbert Wiener's cybernetics in the 1940s. Later, this prefix was added to cyberspace in William Gibson's Neuromancer in the 1980s. And a lot of the science fiction at this time was hard science fiction, so using